Europe 1, en balade avec Laetitia Casta, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est en compagnie de Laetitia Casta que nous partons en balade aujourd'hui dans Paris. Elle est à l'affiche de deux films en ce début d'année 2019. L'homme fidèle, réalisé par Louis Garrel, et l'incroyable histoire du facteur cheval avec Jacques Gamblin, réalisé par Nils Tavernier. Laetitia Casta nous attend rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement.
Europe 1, 11h30, en balade avec Laetitia Casta, Frédéric Taddeï.
Bonjour Laetitia Casta, vous allez bien ?
Bien, merci.
Vous allez très très bien ? Vous allez bien normalement ?
Plutôt pas mal.
Vous êtes plutôt bronzée ?
Bronzée ?
Un peu, je trouve. Ouais. Ah bon, écoutez, non. Tous les gens sont pâles.
Non, je crois que vous me faites rougir, non ?
C'est peut-être pour ça. J'aimerais bien, mais vous avez une bonne mine, comme on dit.
Je vous remercie.
Vous êtes à l'affiche de deux films en ce début d'année 2019. L'homme fidèle, réalisé et co-interprété avec vous par Louis Garrel, qui est votre mari. Et vous êtes également, vous serez bientôt à l'affiche de l'incroyable histoire du facteur cheval. Ce sont deux rôles de femmes. Est-ce que vous les trouvez très différents ?
Oui, il y a quand même un grand écart entre les deux. Mais...
Déjà d'époque.
Oui, déjà d'époque, tout à fait. Mais il y a quelque chose de similaire dans une envie d'amour vrai. Mais chacune emploie des méthodes différentes.
Oui, laquelle vous semble la plus efficace ?
Disons qu'il y en a une qui est plus moderne que l'autre. Marianne, dans L'Homme fidèle, c'est une femme qui est directrice en communication pour les affaires étrangères. Donc elle s'occupe de politique. Donc elle a toujours un coup d'avance sur les choses. Elle a aussi quelque chose de très calme, une force intérieure, Athéna. Athéna, la déesse. Moi, je dirais plutôt Libou, presque, parce qu'elle l'observe, elle attend l'autre. Et Philomène, dans Le Facteur Cheval,
oui,
est une femme,
paysanne.
Est une paysanne, mais elle est comme un peu visionnaire. Elle reconnaît l'autre au-delà des apparences ou ce que les autres peuvent dire sur Le Facteur Cheval. Elle va le reconnaître, elle va le décrypter, elle va lire son âme.
Ouais, c'était pas facile d'être la femme du Facteur Cheval, parce que tout le monde le prenait pour un fou, quand même.
Oui, mais elle le trouvait original.
Enfin, en même temps, je pense que le palais, ça devait un peu la fatiguer quand même. 33 ans passés sur son palais.
Peut-être que lui, à sa manière, elle lui a ouvert les portes. Après, ça, c'est pas complètement la vraie histoire du facteur cheval. On ne sait rien sur Philomène, pas grand-chose. Une photo, et d'ailleurs, la photo n'a rien à voir avec...
Avec vous
Ah non, rien à voir, vraiment. Mais peut-être que moi, j'ai reconnu dans ce personnage mon arrière-grand-mère, sa manière de tenir la maison, de s'occuper du quotidien.
Vous avez une passion pour votre arrière-grand-mère, vous en parlez souvent.
Mais ce sont les premiers exemples de femmes que j'ai eues sous les yeux.
On n'a pas toujours la chance d'avoir connu son arrière-grand-mère.
C'est vrai, ouais. C'est vrai.
C'est, ouais. C'est un privilège.
Ouais. C'est vrai, ouais. Mais ça compte, la transmission.
Est-ce que c'est vrai, cette histoire, que j'ai été employée dans une maison de son village et que vous avez racheté la maison ?
Oui, c'est très bizarre. Quand j'avais 6 ans, je me souviens d'être montée à l'étage sur les toits de cette maison, enfin en tout cas de sa partie à elle où elle habitait. Elle habitait une toute petite maison collée à la maison du maître. Et je me souviens de m'être dit, un jour cette maison sera à moi.
Vous savez, c'est l'histoire de Marcel Pagnol, le château de ma mère. Vous savez, c'est cette propriété qu'ils étaient obligés de traverser pour rejoindre leur petite maison dans la garrigue. Et sa mère était toujours terrorisée par le gardien de cette maison. Et à la fin du château de ma mère, Pagnol dit qu'elle n'aurait jamais dû avoir peur, puisque cette maison, c'était celle de son fils, puisqu'il l'a achetée beaucoup plus tard.
J'aurais aimé qu'elle puisse être là pour pouvoir être dans cette maison.
Vous l'avez toujours, cette maison ?
Oui, mes parents y vivent. Et mon père a joué petit dans la cour de cette maison. Moi, je n'avais pas le droit, bien sûr. On n'avait pas le droit de rentrer à la maison
C'est normal.
Principale. Mais aujourd'hui, mes parents, ils y sont très heureux. Et mes enfants, eux-mêmes, ils vont. Enfin, c'est marrant, quoi.
Là, on est en train de traverser le boulevard Raspail. Vous aimez Paris ?
Oui, j'aime Paris de plus en plus.
Ouais, c'est dur au début ?
Moi, j'ai un problème avec la ville, en général. J'aime la campagne, j'aime la nature. Et c'est vrai que d'être en ville, il y a quelque chose qui n'est pas toujours naturel. Non, je ne sais pas
ça
pour
dépend.
Vous.
Moi, je suis né dans cette ville, alors pour moi, c'est tout à fait naturel.
Ouais. Et la campagne n'est pas du tout naturelle pour vous?
Si, mais c'est plus hostile. Oui, je me
ah
sens.
Bon
bah oui, j'ai toujours l'impression que je pourrais me perdre.
Ah oui,
je
c'est
me
trop
demande
grand
si,
pour vous.
Si je me perdais, est-ce que je saurais survivre? C'est pas une évidence. Vous voyez, quand on est dans une ville.
C'est retourner à son instinct.
Et ça te fait toujours un peu peur de retourner à son instinct, non?
Oui, ça.
Allez-y, qu'on y est. Faites une photo avec nous.
En effet, on continue à avoir les micros.
Je vous en prie. Vous faites toujours des selfies dans la rue? Vous acceptez ou pas?
Oui, j'accepte, oui, bien sûr.
Ça prend plus de temps de refuser ou...
C'est ça, c'est plus compliqué d'expliquer non que juste le faire. Et puis les gens sont en général bienveillants.
Ouais. Vous avez 40 ans maintenant, vous savez ce que disait Charles Péguy, 40 ans c'est l'âge où l'on devient ce que l'on est. Est-ce que vous êtes devenu ce que vous êtes?
Je trouve que plus on avance dans l'âge, plus on se rapproche de l'enfant.
Ah oui?
Qu'on était, ouais.
C'est vrai?
Oui.
Ah c'est bien. Enfin je me demande si c'est bien d'ailleurs. Vous regrettez votre enfance?
Ah pas du tout, pas du tout, mais je veux surtout pas perdre... Enfin l'enfance, c'est derrière... Mais je ne veux pas perdre l'enfant. Ça me fait penser toujours, l'être humain, pour moi, est comme... Vous savez, les petites poupées russes
oui, avec... qui rentrent les unes dans les autres.
Les unes dans les autres. Et avec le temps d'arriver à enlever ces épaisseurs et d'aller à l'essentiel.
On va faire une pause, Laetitia Casta, et on se retrouve dans un instant, toujours dans la rue de Grenelle. Elle est très longue.
Laetitia Casta est l'invitée de Frédéric Tadéhis dimanche. On les rejoint tout de suite dans la capitale pour parler du couple.
Nous sommes rue de Grenelle avec Laetitia Casta. Laetitia Casta, j'ai lu une interview de vous très drôle par Jean-Claude Carrière dans Elle au début du mois de décembre. Vous vous demandiez si une femme qui couche avec le clone de son mari, est-ce que c'est une femme adultère? Et je me suis dit, ça c'est une vraie question moderne.
Est-ce qu'on sait toujours avec qui on couche vraiment?
Ça, c'est plus métaphysique, déjà.
On ne sait jamais vraiment qui est l'autre.
C'est vrai, vous croyez?
Oui, je crois.
C'est Lacan qui disait qu'il n'y avait pas de relation sexuelle du tout.
Ah, ça va encore plus loin. Là, il s'efface totalement à une forme de néant ou de vide.
Mais on pourrait penser qu'on connaît mieux celui ou celle avec qui on couche après avoir couché qu'avant.
Moi, je trouve peut-être, je ne sais pas, c'est un fantasme que j'aime, mais je me dis toujours qu'avec le temps, l'idéal, ce serait qu'on ne connaisse jamais l'autre. Donc, l'amour ne s'arrête jamais, puisqu'on va toujours essayer d'en découvrir son mystère.
Oui, je comprends, mais si on ne connaissait jamais les gens avec qui on couche, ça pourrait poser des problèmes à la fin.
Ah, vous ne pensez pas que ça a à voir avec aussi une idée du lâcher prise et de se dire de faire entièrement confiance à l'autre, même s'il a un poignard dans la main, se dire qu'il y a la possibilité d'être tué ou pas? Et je trouve que c'est ça, la vie, c'est une sorte de danger permanent. On est toujours content d'être encore en vie à chaque fois, à chaque expérience. On se rend compte qu'on ne meurt jamais, finalement.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le lâcher prise? Parce que c'est une expression que tout le monde emploie de plus en plus, mais personne ne lui donne le même sens. Pour vous, quand vous dites lâcher prise, vous pensez à quoi?
Arrêter d'être sur le jeu, mais sur l'autre.
Ah oui, c'est ça. Vous disiez dans la même interview, vous demandiez si violer un robot, c'est interdit par la loi ou pas. Vous posez de drôles de questions, quand même.
Non, mais regardez ce qui se passe. Il y a quand même ces poupées qui sont faites.
Oui, qui ressemblent étonnamment et qui sont
oui,
des robots. Hein.
Ça existe déjà.
Oui, c'est vrai. Voilà, c'est la question, c'est la femme adultère. Je me demande si ça existe encore, le concept de femme adultère.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que dans cette interview, vous disiez qu'une femme qui couche avec le clone de son mari, est-ce qu'on peut la considérer comme une femme adultère? Et je me disais, mais au fond, l'idée de la femme adultère qui a fait scandale et qui a terrifié les hommes pendant des siècles et des siècles. Maintenant, ça c'est...
Oui, non, mais maintenant, c'est vrai que c'est complètement dépassé. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Quoique non, dans certains pays, non. Au Liban, je ne crois pas.
Ah, au Liban, ils sont assez libres. Hein.
Vous savez, les jeunes filles sont quand même mariées très tôt là-bas. Non, je ne pense pas qu'elles soient complètement, complètement libres.
Non, mais je suis allé dans les Beyrouth, c'est vrai que tout le monde avait l'air de s'amuser beaucoup, mais en même temps, ils ont les cultures de tous les pays qui sont tout le temps ou presque tout le temps en guerre. Ils ont tendance à s'amuser plus que la moyenne.
Oui, ou comme En Israël, moi j'étais à Jérusalem pour un festival du cinéma et il y a une jeunesse là-bas, une envie de découvrir. Les gens sont hyper accueillants, bienveillants et tout ça. Et puis après, en dehors de ça, voilà, ils sont obligés de vivre normalement. Ils sont tellement habitués au conflit, à la guerre, que peut-être qu'ils sont beaucoup plus vivants que nous.
Oui, nous, on a d'autres conflits. Je vous ai vu au théâtre dans Scène de la vie conjugale. Vous l'avez joué beaucoup d'ailleurs. Hein. Vous l'avez joué
plus de 200 fois.
200 fois. Et c'était un gros succès avec Raphaël Personnaz, adapté du film d'Ingmar Bergman. C'est un peu notre guerre à nous les populations qui vivons en paix. C'est le couple, en fait. C'est là notre aventure à nous.
Mais c'est marrant parce que je suis partie jouer en Chine. Donc oui, tout à fait. Donc ils ont une autre conception du couple. Pour eux, l'idée, c'est d'abord de se marier très tôt, d'avoir une maison, un appartement, un travail, des enfants. Et s'ils ont fait ça, ils ont réussi leur vie. Et l'idée du conflit, pour eux, c'est inimaginable. Alors, ils sont plus la concubine est quelque chose qui revient beaucoup là-bas. Et nous, on arrive et on est passionnés, déchirés dans le couple. C'est tragique à la fois. Et donc, ils regardaient ça avec des yeux en disant « Mais mon Dieu, les pauvres !» Et j'ai posé la question à une femme qui m'a dit mais nous, une fois qu'on est mariés, on est contents. On ne va pas chercher des histoires. » C'est vrai qu'on a quand même une réputation de fous furieux.
Vous pensez que c'est de la folie ou au contraire, c'est du raffinement ?
Oui, c'est du raffinement. Oui, oui. Oui, pouvoir se disputer ou se chercher, c'est peut-être...
Surtout que dans Scène de la vie conjugale, ça se passait sur 20 ou 30 ans, si je me souviens
bien. Oui, hein. Exactement. Oui. Mais à travers la soumission de cette femme, à travers le couple, et quand elle va découvrir qu'il la trompe, ça va être une ouverture pour elle, ça va être une chance.
Oui, d'ailleurs, si je me souviens bien, elle découvrait le plaisir sexuel avec un autre que son mari.
Oui, elle va découvrir sa sexualité qu'elle a renfermée depuis trop longtemps, due au milieu bourgeois d'où elle vient, et toujours l'envie d'être parfaite et de réussir sa vie de famille. Elle va totalement se libérer de tout ça.
Europe 1.
On se retrouve avec Laetitia Casta dans un instant, rue Grenelle, une rue Grenelle avec beaucoup de voitures, beaucoup de gens, et Laetitia Casta.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï vous emmène en balade avec Laetitia Casta dans les rues de Paris et on les retrouve justement dans le 7e arrondissement.
Nous sommes avec Laetitia Casta, alors plus dans la rue de Grenelle, mais dans la rue de Bourgogne. On se dirige vers le Palais Bourbon. Laetitia Casta, j'ai l'impression que c'est la place qu'occupe la femme dans la société. Ça a l'air de vous préoccuper depuis assez longtemps, non ?
Mais ça ne me préoccupe pas, ça m'intéresse.
Voilà, alors c'est le mot le plus approprié, effectivement. Mais pourquoi ? Parce que vous pourriez très bien vous contenter d'être une femme dans la société sans vous interroger spécialement sur sa place.
Bah, disons que j'imagine que vous, en tant qu'homme, vous interrogez sur des questions aussi existentielles.
Enfin. Oui, mais nous, dans ces cas-là, nous, en tant qu'homme, on se pose des questions qui incluent les femmes, très souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas en tant qu'homme spécialement que je me pose des questions.
Ah, moi, c'est en tant que femme. Voilà. Et le fait de me poser des questions en tant que femme me permet aussi d'y penser pour les autres. C'est-à-dire que quand je pense aux autres, je pense aussi à moi.
Je crois que c'est Marilyn Monroe qui disait que m'importe que le monde soit un monde d'hommes fait pour les hommes du moment que je peux y être femme.
C'est joliment dit, oui. Mais je pense qu'on peut cohabiter ensemble être justement ensemble et pas contre. C'est pas parce qu'on va parler des femmes qu'on ne peut plus parler des hommes et vice-versa.
Oui. Surtout qu'on se ressemble de plus en plus, non ? Vous ne trouvez pas ?
Je pense qu'on s'est toujours ressemblé, mais on a une manière de dire les choses différemment ou de les dire différemment. Mais quand j'ai lu Quiconque théorie de Virginie Despentes, il y a une chose qui m'a vraiment parlé, c'est lorsqu'elle dit que si les femmes ne vont pas bien, les hommes n'iront pas bien non plus. Quand l'homme, par rapport à la société, il doit toujours être fort, avoir du pouvoir, faire une carrière, montrer sa féminité, quelque chose de difficile ou de mal vu. Et pareil pour la femme, lorsqu'elle doit être en harmonie avec son masculin, c'est-à-dire aller vers son désir, et quelque chose n'est pas toujours évident. Et elle disait que si les hommes sont bien avec eux-mêmes et ils le seront bien aussi avec les femmes et vice-versa. Je trouvais ça très intéressant.
On approche de l'Assemblée nationale. Vous avez été Marianne, c'était au début des années 2000. Vous aviez été choisie par une majorité des maires de France. C'est eux qui votent, hein, les maires, pour décider qui sera la prochaine Marianne.
Oui, ben, au moment où on m'a dit que j'étais Marianne, c'était drôle parce que je faisais la bicyclette bleue, j'étais une jeune femme résistante.
Oui, vous jouiez Léa Delmas,
voilà, exactement.
De Régine Deforge.
Exactement, d'ailleurs j'ai eu la chance de la rencontrer, Régine Deforge. C'était une femme formidable. Et c'était drôle parce que ça correspondait un petit peu au personnage que j'étais en train de jouer. Il y avait quelque chose un peu de, à la fois d'envie de comment dire, avec cette guerre qui se produisait, de pouvoir sauver l'humanité. Donc. Et cette Marianne qui porte le drapeau droit devant, le sein dehors, il y avait quelque chose d'assez symbolique.
Et vous appelez Marianne d'ailleurs dans L'Homme fidèle.
Mais aussi dans les scènes de la vie conjugale. C'est quelque
oui, c'est
chose
vrai.
Qui me poursuit totalement, mais personne n'y a fait attention. À l'écriture du scénario, Jean-Claude Carrière ou Louis Garrel ne se sont pas dit que j'avais déjà interprété
Marianne. Oui, là on voit un portrait de Marianne dans la rue de Bourgogne.
Mais les Mariannes me portent chance, oui.
Voilà.
Oui.
Et est-ce que vous êtes rentrée dans des mairies où il y avait votre buste à l'époque?
Oui, ça m'est arrivé, mais je suis toujours un petit peu gênée. Mais je trouve que ça ne me ressemble pas du tout.
Non. Et en photo, vous trouvez que vous vous ressemblez?
En photo, ça dépend. Ça dépend du photographe, de son univers.
Et en film? C'est pas la même chose, hein, en fait.
On vit quand même des transformations fortes, parfois. Enfin, moi, j'aime bien m'éloigner justement complètement de moi. Mais quand j'ai démarré la photographie, la première fois où j'ai vu ma photo prise, je ne me suis pas du tout reconnue. C'était étrange, c'était une autre femme.
Vous étiez très jeune à l'époque, vous aviez 14-15 ans, non ?
Oui, 15 ans. Et du coup, je découvrais une femme, alors que dans la vie, j'étais une gamine.
Nous sommes place du Palais Bourbon, devant l'Assemblée nationale, un lieu chargé symboliquement. Dans cette interview avec Jean-Claude Carrière, vous disiez que vous étiez de gauche.
Oui.
Vous aviez compris que vous étiez de gauche.
Bah, en fait, on ne se pose jamais vraiment la question à quel moment dans l'enfance ou même beaucoup plus tard, ça dépend des gens, on choisit son parti politique.
Oui, en général, on reproduit les opinions politiques de ses parents, de son milieu, de sa génération.
Et moi, je fais un rapprochement avec la sexualité. C'est tout aussi important, je trouve.
Vous voulez dire à quel moment on choisit son orientation sexuelle?
Oui.
Qu'est-ce qu'on l'a choisi, vous croyez?
Ah, moi, j'ai un souvenir de la toute petite enfance, au moment où j'ai choisi, à ce moment-là où j'ai choisi, en tout cas, mon désir sexuel. D'être hétéro ou pas, vous n'en savez rien.
Oui, pardonnez-moi. Mais vous vous souvenez de ce moment-là? C'est drôle.
Oui, je m'en souviens, oui. Enfin, vous ne vous souvenez pas de votre
premier... Mais j'ai souvent posé cette question à des amis homosexuels en disant « À quel moment est-ce que tu es devenu homosexuel ?» Et tous avaient l'air de me dire que soit ils l'avaient toujours été, soit que...
Non, mais on a toujours été ce qu'on est. C'est pas ça la question. C'est au moment où on a son premier fantasme.
Ah oui, au moment où donc on prend conscience.
On prend conscience de son premier fantasme et ça va complètement définir toute votre vie sexuelle par la suite.
Ah oui. Ben pendant que je réfléchis à ça, je vous propose de vous écouter Laetitia Casta dans Comic Strip, que vous interprétiez avec Eric Almosnino dans Gainsbourg Vie Héroïque, le film de Johan Sfar.
Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des oui, tes clics, crac, et bam, des flops et des
shiba, pow, blop, oui.
Je distribue les swings, les uppercuts, ça fait,
blam,
ça fait,
splash,
et ça fait,
ch'tac,
oh bien,
boum,
oh, parfois même,
shiba, pow, blop, wheeze.
Viens, petite fille, dans mon comic strip,
viens faire des bulles, viens faire des whips, des clics,
crac, des bam, des flops et des zips,
shiba, pow, blop, wheeze.
Viens avec moi par-dessus les bulles.
Ça fait wing
quand on s'envole et puis gling. Après quoi je fais titi, ça fait bouing. J'ai bam, blop,
wouz.
Mmh.
C'était Laetitia Casta et Eric Elmosnino dans Comic Strip, extrait de la bande originale du film de Johannes Farr, Gainsbourg, vie héroïque. On se retrouve dans un instant à la brasserie Le Bourbon.
Frédéric Taddeï et Laetitia Casta continuent leur balade dans une brasserie, place du Palais Bourbon, et vous allez voir qu'ils ne sont plus seuls.
Nous rentrons maintenant dans la brasserie Le Bourbon avec Laetitia Casta sur la place du Palais Bourbon. Bonjour.
Bonjour. Bonjour monsieur.
Où l'on a rendez-vous avec Léa Salamé. Bonjour Léa.
Bonjour Frédéric. Bonjour Laetitia.
Bonjour Léa.
Qu'est-ce que vous voulez boire ?
Moi j'aimerais bien une grenadine Vittel.
Je vais prendre un cappuccino. Même si c'est très risqué ici.
Ah oui ?
Non, enfin, en France, quoi. C'est meilleur en Italie, quand même.
Je vais prendre un café noir français. Vous connaissez cet endroit ? Vous savez que c'est ici... je m'intéresse à Léa Salamé, là, parce que c'est le genre de truc qui doit la passionner. Vous savez que c'est ici que Jacques Chirac avait lancé son appel en 74 aux députés gaullistes à faire élire Valéry Giscard d'Estaing.
C'est au Bourbon ?
Au Bourbon.
Non, je ne savais pas, vous voyez.
Et
vous
voilà,
m'apprenez des choses, Frédéric.
C'est comme ça que Jacques Chaban-Delmas n'est jamais devenu président de la République. Et c'est ici que, je ne sais plus, c'était 12-13 parlementaires sarkozystes ont demandé à François Fillon en février 2017 de renoncer à sa candidature.
Et c'était au Bourbon aussi.
C'était ouais. Au Bourbon aussi.
C'est une plaque tournante de politique. Hein.
Vous connaissez comment, toutes les deux ?
Bien, on s'est croisés plusieurs fois. Enfin, pas tant de fois que ça, mais
deux, je crois.
Deux fois, et j'ai mais j'ai l'impression de vous connaître, Léa.
C'est vrai ?
Oui.
Pourquoi ?
D'abord, je l'admire beaucoup, et je perçois des choses chez elle qui me touchent énormément. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, de tendresse, de douceur en dehors de ce qu'on connaît d'elle, mais il y a quelque chose chez Léa qui m'intrigue et m'intéresse.
Vous êtes si douce que ça, Léa Salamé ?
Non, mais ça me touche beaucoup qu'elle dise ça. D'ailleurs, elle m'a laissé un message que j'ai trouvé assez étonnant, un peu stupéfiant. Parce que, non, mais c'est assez touchant d'avoir un message, un peu une déclaration de la part de Laetitia Casta. Je pense que je peux arrêter
bien.
Ma carrière après ça. Non, mais je trouve ça bien qu'elle trouve de la douceur, parce que souvent, on reproche aux femmes journalistes...
C'est vrai, journalistes politiques. Oui,
journalistes politiques, toujours systématiquement, ce qu'on dit quand c'est un homme qui pose la question, c'est pugnace, rentre dedans, culotté, génial. Et quand c'est une femme, c'est agressif.
J'ai noté justement pour vous, Léa, une citation par rapport à ça. Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère, de Simone de Beauvoir. Ça vous dit quoi ?
Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Ben, je ne suis pas d'accord avec Simone de Beauvoir, parce que j'ai envie de vous citer Drieu La Rochelle.
Oui.
Or, c'est plus suspect, mais bon, avec Frédéric Taddeï, je peux.
Je serais toujours le plus suspect de tous.
Qui disait « Toutes les femmes sont sérieuses comme la pluie, surtout les plus légères. » Et alors, je ne suis pas sûre que ça va à l'encontre de ce que
non,
dit Beauvoir.
C'est un peu la même chose.
C'est sans doute un peu la même chose.
C'est sérieuse comme la pluie, moi, j'aime bien.
Mais je pense que toutes les femmes sont sérieuses comme la pluie, surtout les plus légères. Et ça me va bien. Mais sur la liberté, oui, effectivement, c'est ce qui m'intéresse. Mais je pense que c'est ce qui intéresse Laetitia Casta aussi. Je pense que c'est quelque chose... quand on a la carrière que vous avez, on peut être vite enfermé dans des catégories, Et je trouve que dans votre carrière, vous avez toujours voulu casser les codes en recherchant cette forme de liberté. Et c'est quelque chose qui moi, me touche et m'intéresse.
Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. C'est que c'est la deuxième d'une famille de trois enfants. Et le deuxième, c'est toujours les révoltés ou les révolutionnaires. C'est jamais l'aîné qui fait la révolution, parce que l'aîné, il a tout pour lui. C'est toujours la deuxième. Et alors, le pire, c'est quand on est deux dans une famille de trois, parce que c'est toujours les deux plus grands faites ceci, les deux plus grands faites cela, les deux plus petits faites cela. On est toujours dans les mauvais coups quand on est deuxième. Donc, on se révolte.
Et vous avez une âme de révolutionnaire ?
Moi ?
Ouais.
Non, c'est une révolution joyeuse.
Oui, mais quand
je ne me
même.
Suis jamais révoltée face à mes parents. Je me suis toujours dit que je ne claquerai jamais la porte de chez moi. Mmh. Je n'avais pas envie. J'avais envie que ça passe par du dialogue, de la communication, de la délicatesse. J'ai un peu du mal avec le conflit.
Ouais.
Enfin, je trouve que le conflit est quelque chose... Ça peut être intéressant, mais parfois réducteur. Parce qu'on montre le pire de soi. Et je trouve ça toujours très intéressant d'aller... dans la douceur et dans le calme et d'essayer d'aller avec délicatesse vers l'autre, ça nous amène de la hauteur, je trouve. Enfin, ça, c'est mon point de vue.
Vous étiez combien dans votre famille, Léa Salamé ?
Deux, je suis l'aînée. Ah, bah, je suis voilà. La révolutionnaire.
Bah, non, l'aîné, au contraire. L'aîné, il ne fait jamais la révolution. Vous ne trouvez jamais un révolutionnaire qui était l'aîné dans sa famille.
Bah ouais, mais
elle était toi. Peut-être meneuse de troupe. J'étais révolutionnaire plus que ma sœur. Je suis désolée.
Mais non, l'ordre, l'aîné, moi aussi je suis l'aîné, on représente l'ordre, toujours.
On aime l'ordre.
Oui, l'ordre c'est construit autour de nous.
L'aîné est de droite et le deuxième est de gauche.
Il y a des conservateurs de gauche. Non.
Ouais. Mais pourquoi vous avez dû faire la révolution ?
Non, mais je suis plus en. Je crois que j'étais plus en colère que ma sœur. Je crois que.
Une colère contre quoi ?
Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas analysé, j'ai pas le temps d'analyser et c'est tant mieux, mais je crois qu'il y a une forme de révolte en moi qui
le
m'a toujours brûlée. Le
cappuccino, c'est pour Laetitia Casta, bon. Et le lait grenadine, non, la grenadine, c'est pour Léa Salamé.
Vous avez vu, je vous ai dit qu'elle était tendre.
C'est vrai. Et elle aime la couleur. Non, c'est vrai.
C'est
elle a un beau pull bleu.
Turquoise.
Couleur du roi, c'est le bleu royal.
Europe.
On se retrouve juste après une pause à la brasserie Le Bourbon avec Laetitia Casta et Léa Salamé.
Pour la suite de la balade de Frédéric Taddeï et Laetitia Casta, les rôles s'échangent un petit peu. Vous allez découvrir que l'actrice peut aussi être une très bonne journaliste.
Nous sommes à la brasserie Le Bourbon avec Laetitia Casta. Merci, mon café est arrivé aussi. Pardon ?
Non, mais j'ai dit qu'elle n'a pas changé, Laetitia Casta. Toujours des yeux exceptionnels, un visage resplendissant.
Vous n'en avez pas marre que tout le monde vous trouve belle ?
On parle pas de ça, là. On parle d'autre chose.
Ah bon, bravo. Non, bien joué. Non, mais c'est sûrement vrai, en plus.
Vous me disiez que vous connaissiez donc Léa ?
Léa était très gentille quand elle a débuté. Elle disait toujours que j'étais son modèle. C'est là où on voit qu'on vieillit. C'est quand ceux qui vous ont pris pour modèle au départ commencent à faire une belle carrière et même font une plus belle carrière que la vôtre.
Est-ce que ça fait peur quand une femme fait bien son travail ?
Pas du tout. Je travaille toujours avec des femmes. J'adore travailler avec des femmes. Moi, je suis très sexiste. C'est-à-dire que je préfère les femmes.
Et j'avais noté ça. Personne n'est plus arrogant envers les femmes et plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet sur sa virilité.
Ah oui, c'est sûr. Bien sûr. Quand on n'a pas d'inquiétude, on est plus à l'aise.
Vous êtes un homme inquiet, vous ?
Pas du tout.
C'est vrai qu'Asta est en train de vous demander, Frédéric Taddeï, si vous avez des problèmes avec votre virilité.
Pas du tout. Je m'intéresse à lui.
Si vous intéressez à ma virilité, j'en serais fort honoré, mais... Non.
Elle est bonne intervieweuse, en fait. Hein. Parce que là, il rougit, Taddeï, ce qui est rare.
Ah, vous êtes bronzé d'un coup.
Vous ne vous sentez pas plus libre à la radio qu'à la télé ?
Je me sens plus libre peut-être parce qu'on est concentré sur la voix, donc l'âme.
Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, la télé, il y a une notion où tu regardes ton retour, où tu as la mèche de traviole, où tout se lit en plus, toutes tes expressions se lisent, si tu es ennuyé, si tu es en colère, alors que là, personne ne peut savoir.
Bah tiens, j'ai quelque chose par rapport à ça, justement.
Elle collectionneuse de citations, c'est marrant.
Elle a bossé, elle a sorti son petit. J'ai fait ça juste avant de venir.
Ah, bah, écoutez,
mais c'est des choses dont je veux parler. Nous sommes dans un siècle de l'image, pour le bien comme pour le mal. Nous subissons plus que jamais l'action de l'image.
Qui est-ce qui a dit ça ?
Bachelard, que j'aime beaucoup.
Et qu'est-ce qui vous gêne dans la suprématie de l'image aujourd'hui ? Parce que si on reprend la phrase, ça dénonce un peu le fait que l'image...
Quand on est emprisonné dans l'image, oui, je trouve que beaucoup, même par rapport aux informations, enfin tout ce qui défile extrêmement vite, on est piégé. Le téléphone, pareil, ça rapproche pas, ça éloigne, tout éloigne, tout est un peu faussé, c'est vrai.
Vous regardez l'actualité, vous regardez les chaînes d'infos, vous suivez, par exemple,
oui.
Là, ce qui s'est passé, les gilets jaunes et tout ça, c'est
bien
quelque
sûr,
chose qui
oui,
vous a.
Bien sûr, oui, ça me parle énormément.
Ouais.
Puisque c'est quand même nous, c'est le peuple, qu'on le veuille ou pas, et tout ce mélange qui nous plaît ou pas, c'est nous, ce que nous sommes, donc on doit s'y intéresser.
Moi, c'est ça que j'aime bien chez elle, vous voyez. Mais non, mais c'est parce que quand on interviewe beaucoup d'actrices, ils ont le choix de rester dans l'image, dans le rôle de l'artiste, de l'actrice. Moi, j'ai invité Laetitia Casta comme ambassadrice de l'UNICEF. C'est prendre un risque pour une actrice aujourd'hui. C'est mal vu, je trouve, ce que fait Casta, ce que fait Cotillard. Quand Juliette Binoche vient dans l'émission politique avec Hulot, eh ben, elle a peur. elle peut perdre des points, elle peut perdre des spectateurs et elle prend un risque.
C'est le contre-coup, parce que dans les années 80, c'était très bien vu.
Ben voilà, c'est
et
ça.
Que donc, forcément, c'est le contre-coup. Vous l'avez signé, d'ailleurs, l'appel des 200 personnalités pour sauver la planète. C'était à l'initiative de Juliette Binoche.
Vous l'avez signé ?
Oui, je l'ai signé.
Je trouvais toujours bizarre, d'ailleurs, comment ça vous arrive ? Pourquoi à vous ? Parce que tout le monde aurait pu signer.
C'est très simple, je reçois un SMS. On me demande si je serais d'accord pour signer ça ou ça ou ça. Ouais. Voilà, ça se passe comme
et
ça.
Parce que j'ai regardé, en fait, vous y êtes. Il n'y a pas Jacques Gamblin, par exemple, avec qui vous partagez la lettre.
Il n'a pas reçu d'SMS. Voilà, je me demande même si Jacques Gamblin a un téléphone. Je sais pas.
Non, mais c'est vrai, c'est ça, souvent les pétitions. Ça arrive par vous parce que vous connaissez quelqu'un qui vous connaît, qui a votre numéro. C'est
comme
bizarre,
ça que ça se passe.
Après, on peut refuser de signer.
Oui, bien sûr.
Ça vous est arrivé de ne
pas forcer avec un couteau sous la gorge.
Eh bien, on va continuer notre balade avec Laetitia. Laetitia Casta, merci Léa Salamé d'avoir été avec nous.
Je peux juste dire quelque chose sur Léa, puisqu'elle est là. J'imagine dans tout votre parcours, Léa, tout ce que vous avez fait pour être là où vous êtes aujourd'hui. Parfois, j'ai la sensation, enfin, peut-être que je me trompe, mais pour y arriver, pour être là où vous êtes, vous avez dû quand même vous défendre pas mal et être sur un terrain, je ne veux pas dire agressif, mais fort, puissant, presque viril. Je me trompe ou pas ?
Non, pas du tout, vous ne vous trompez pas, c'est vrai. Et c'est un métier, le métier de journaliste, et notamment quand il s'agit des politiques, à la télévision, à la radio, qui est extrêmement exposé, qui est extrêmement critiqué. Et il faut se blinder, moi j'ai appris à me blinder, faire l'émission de Ruquier m'a appris à me blinder, Laurent Ruquier m'a appris à me blinder. C'est certain qu'il faut s'endurcir, face aux politiques, parce qu'ils peuvent jouer de votre féminité, ils peuvent installer un rapport de séduction, et je n'aime pas ça. Et j'ai vite compris, quand j'ai commencé, j'ai un de mes rédacteurs en chef qui m'a dit une phrase qui m'a sauvée. J'étais présentatrice à France 24, petite présentatrice de JT, j'avais une petite vingtaine d'années. Et je faisais le JT, et je jouais un peu de ma séduction, je faisais des machins. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Léa, tu n'as pas besoin de minauder, toi. Arrête de minauder. » Et en fait, d'un coup d'un seul, j'ai arrêté de minauder. Et je ne peux plus supporter quand je vois les petites journalistes nana qui soit jouent la femme enfant, soit minaudent, soit... Et en fait, je crois qu'il faut... C'est quelque chose qui m'irrite parce que c'est comme les femmes qui se posent tout le temps en victime. Je pense qu'il y a un moment où il faut s'affirmer, pas dans la force, pas dans le bras de fer, mais juste dans une forme. C'est pour ça que quand vous avez parlé de douceur, vous m'avez touchée, parce qu'on peut être doux et fort. Et c'est la chance des femmes. Et pour ça, il faut essayer, à mon avis, de dépasser tout ce qu'on peut avoir par facilité, par le physique, par ce truc-là, pour établir des rapports égaux avec les hommes ou avec les autres femmes qu'on interviewe.
C'est marrant parce que j'étais à un dîner, j'étais en dehors de Paris pour une avant-première en province, et puis il y avait un journaliste de radio qui m'a parlé de ma rencontre avec Léa quand je suis venue pour l'UNICEF. Et il m'a dit, et ça m'a choquée, il m'a dit « Mais Léa Salamé est très bien, mais vous ne trouvez pas qu'elle a l'air d'une bimbo ?» Mais, pardon, hein.
Non,
mais... Et il me dit ça à moi. Il me dit, vous ne pensez pas que c'est un problème d'être belle pour une femme ? Et je lui dis, mais vous pensez que ça a à voir avec quoi ? C'est parce que c'est votre regard sur la femme que vous posez. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Se crever les yeux pour continuer à travailler ? Qu'est-ce que ça change ? Ça m'a agressée, moi, directement. Je me suis touchée. Enfin, ça m'a... C'est comme si, oui, en agressant Léa, ça m'a... Et il y avait une forme, de jalousie.
C'était un homme ou une femme ?
C'était un homme.
Un problème de virilité, d'après ce que vous disiez tout
à
l'heure.
Oui, exactement. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça.
Eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter tout de suite Paris en colère par Mireille Mathieu. Hein ? Ça me paraît tout à fait à propos.
La perdu. Mais on pourra se présenter là, une fleur au chapeau. On veut être libre à n'importe quel prix. On va vivre, 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 vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble quand Paris est en danger. Et le monde chante quand Paris s'est libéré. C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière.
C'était Paris en colère, interprété par Mia et Mathieu. C'était la chanson du film Paris brûle-t-il. On va continuer notre balade avec Laetitia Casta. Merci Léa Salamé, merci. À bientôt.
À bientôt.
De 11h à 12h30, vous êtes en balade dans les rues de Paris avec Frédéric Taddeï et Laetitia Casta.
Nous sommes en balade avec Laetitia Casta. Nous sortons de la brasserie Le Bourbon. La question que vous avez posée à Léa Salamé sur le fait est-ce qu'elle avait dû se défendre pour en arriver là où elle était, je me suis dit que vous-même, vous aviez dû beaucoup vous défendre, non? Depuis, puisque vous travaillez depuis l'âge de 14-15 ans, non?
Oui, enfin, y a des combats qui sont apaisés quand même. Mais j'avais envie de parler de Léa comme ça. C'est des choses, des intuitions féminines que j'ai sur elle et ce que je pouvais percevoir. Et je me suis dit que parfois, pour arriver, avoir une ambition de carrière, ou il faut mener des combats, avoir une carapace, devenir presque agressif. Et pour moi, la vraie victoire pour une femme, c'est d'arriver de se défaire de tout ça et de rester justement tendre, ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit et d'être tout simplement soi. Et c'est pas toujours évident, ça met du temps.
Je me dis que d'avoir été mannequin, c'est une bonne école pour ça. On apprend à se défendre, justement.
Je crois que d'être mannequin, c'est être docile.
Ah oui, mais en
docile.
Même temps, comme on ne veut pas l'être...
Ça dépend qui, mais moi, j'ai jamais réussi à être docile. Ça a été un souci.
Au fond, celles qui font des carrières au-delà du métier de mannequin, c'est parce qu'elles n'ont
pas été dociles.
Elles n'ont pas été dociles,
oui,
j'imagine.
Oui, c'est vrai. Enfin, toutes les top modèles que j'ai pu croiser à l'époque, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, des femmes avec un caractère fort, un univers. Elles arrivaient, elles étaient excentriques. Et aujourd'hui, tout est un peu, comment dire, les filles ne durent pas aussi longtemps. Elles viennent aussi d'Internet. Donc, ce qu'on voit sur Internet est la même chose de ce qu'on voit en vrai. Et les carrières passent très vite.
Vous trouvez ? Parce qu'on a toujours tendance à dire ça pour la génération suivante, au fond. Vous savez, les acteurs disaient la même chose dans les années 60 en disant « Aujourd'hui, ça passe très vite. »
Vous les connaissez, les voix des filles, des mannequins, aujourd'hui ? Est-ce qu'on les interviewe pour savoir ce qu'elles pensent ?
Vous étiez l'une des rares, au fond, peut-être parce que vous étiez française, dont on entendait la voix et dont on savait qu'elle avait une personnalité.
Je ne sais pas, mais quand j'ai fait les castings, on me disait toujours que j'étais trop petite ou trop ronde ou pas assez. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument, par mon caractère, que je puisse montrer autre chose. Et ça a toujours, finalement, c'est toujours passé par là, d'abord.
Au fond, vous étiez déjà comédienne.
Yves Saint Laurent m'avait dit ça. Il m'a dit « tu seras comédienne ». Mais moi, je ne comprenais rien encore aux choses. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. Enfin, c'est une résonance.
À l'époque, pas forcément.
Mais pas forcément. Moi, j'avais envie de bien faire mon travail. J'avais envie d'être mannequin. Enfin, j'avais envie de lui plaire. Et quand il me disait « tu seras comédienne », j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose à ses yeux.
Vous l'avez bien connu, Yves Saint Laurent. Vous avez été vraiment sa muse. Vous étiez jeune, vous aviez 19 ans, je crois, quand vous avez commencé à travailler avec lui.
Oui.
Comment était-il avec vous ? Parce que quel personnage fascinant. Hein.
Oui, bah, il était très entouré entre Loulou de la Falaise, Pierre Berger, des fortes.
Petit Catrou.
Oui, des fortes têtes comme ça. Et moi, j'étais extrêmement timide et la première fois où je l'ai rencontré. Exactement. Mais ça a été ma grande surprise. Je suis arrivée et je vois cet homme assis, d'abord très élégant, et assis comme ça. Il a à peine levé la tête. Il m'a dit un mot. Il a rebaissé la tête et j'ai rougi comme une tomate et je suis tombée amoureuse de lui. Mais voilà, cet homme m'a bouleversée et j'ai eu la sensation que tous les deux, on n'avait pas de défense, on était fragiles et on s'est tenu la main.
Est-ce que vous regrettez des choses de cette époque ou pas du tout ? Vous n'êtes jamais nostalgique ?
Ah, pas du tout nostalgique, moi, non. Non, non, je regrette rien. J'ai eu l'impression de vivre tout à fond. J'ai jamais vraiment regretté mon adolescence, enfin d'avoir une vie normale ou comme tout le monde, l'idée de non, sortir.
Ça ne vous est pas arrivé ?
Non, ça ne m'est pas arrivé, mais quand j'y étais, enfin le peu que j'ai connu, ça m'ennuyait. C'est bizarre, vous êtes dos à moi parce qu'on est dans
oui,
une petite.
Parce qu'on passe sous un échafaudage.
Mais c'est pas mal. Vous êtes derrière moi, vous marchez derrière moi et j'ai l'impression de parler toute seule et d'être complètement folle.
Il y a beaucoup de travaux dans Paris et là, on ravale les immeubles de la rue de Bourgogne.
Non, je disais que...
Oui, à partir de 14-15 enfin, ans, vous travaillez, vous n'avez pas une adolescence comme en ont la plupart des jeunes filles.
Non, mais ça n'aurait pas fonctionné de toute manière. J'aurais été malheureuse, je crois.
Parce ah bon
que l'idée d'aller en boîte de nuit, faire comme tout le monde, ou faire des trucs normaux, genre aller faire ses devoirs, passer son bac, passer son permis de conduire, et puis se retrouver en boîte de nuit, tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours effrayée.
Ah bon?
Oui.
Mais les boîtes de nuit, les mannequins y vont aussi. Hein.
Oui, mais je n'y allais pas. Je ne suis jamais allée. Non, jamais. Non, je ne suis pas du tout dans ça. Par timidité, une grande timidité qui fait que le rapport à l'autre, mais pas toujours évident. Ça va mieux maintenant. Mais...
Oui, j'ai l'impression que ça va
mieux. Vous me mettez dans la rue avec un micro.
On se retrouve juste après les informations avec Laetitia Casta.
Europe 1, en balade avec Laetitia Casta, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade dans le 7e arrondissement de Paris avec Laetitia Casta qui est à l'affiche de deux films en ce début 2019, de L'homme fidèle avec et réalisé par Louis Garrel et de l'incroyable histoire du facteur cheval avec Jacques Gamblin, réalisé par Nils Tavernier. Laetitia Casta, il y a des motos. Hein. Je ne sais même plus ce que je voulais vous demander.
Vous me disiez une moto, vous me parliez de Nils oui. Tavernier, qui a réalisé le facteur
Absolument.
Cheval, interprété par Jacques Gamblin.
Jacques Gamblin, avec qui nous sommes partis en balade également il y a un mois ou deux. Vous aimez ce film ?
Je l'aime parce qu'il est simple et il parle de choses profondes. On est complètement dans l'émotionnel et puis on parle de la volonté d'un homme un peu fou.
Un peu fou, vous pensez ?
Enfin, fou.
Oui, il a l'air
non,
fou. Hein, dans
pour
le film.
Moi, il n'est pas fou, mais pour les autres, en tout cas, à l'époque, il pouvait l'être. Oui.
C'est un film en costume.
Oui.
Comment vous sentiez-vous dans ces vêtements du 19e siècle ?
Ouais, j'aime bien l'épaisseur, j'aime bien quand on cache. Les couleurs aussi, c'est comme des peintures, les dégradés de couleurs. Dans le personnage, dans sa construction de Philomène, au départ, dans sa jeunesse, on allait plutôt dans les bleus, après les bleus pâles, puis la vie devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure que les saisons passent, et on tombe dans les gris, dans les noirs.
C'est drôle ce que vous dites, en fait, je ne l'ai pas réalisé en voyant le film, mais c'est très juste. C'est quelque chose... Justement, j'ai l'impression qu'on est un peu fâché avec la couleur à notre époque, au 21e siècle. Je le dis souvent, on
les gens se
tous
cachent.
En noir, on a des voitures grises, noires ou blanches. Et c'est vrai que dans les films, c'est la même chose ?
Oui, c'est vrai que dans les films, on veut tomber dans la normalité. On pense que l'authenticité, c'est le naturel.
On est dans une grande période de cinéma naturaliste en France. Ça,
oui.
Ça vous plaît pas tant que ça ?
Moi, j'aime pas tellement ce cinéma-là. Pourquoi aller voir ce qu'on voit déjà dans la vie ? Déjà, comme vous dites, tout est gris. Moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie de comprendre la vie encore mieux en passant par le rêve, pas par le cauchemar.
C'était ça autrefois le cinéma, c'était Bigger Than Life.
Oui.
C'est-à-dire qu'en notre nom, il y avait sur l'écran Robert Redford et Faye Dunaway, ou on Alain avait... Delon et Catherine Deneuve.
Et même dans leur silence, on a juste à les regarder et ça fait rêver. Mais voilà, quand on est dans des films un peu comme ça, du quotidien, c'est triste. Et surtout, ces films-là vieillissent très mal.
Vous trouvez ?
Ben oui, ça se démode. Quand on est dans quelque chose d'intemporel, c'est beaucoup plus grand et on peut plus s'identifier, je trouve.
Mais alors, vous devez avoir des problèmes, parce que c'est quand même une grande partie du cinéma français qui est comme ça. Et pourtant, vous tournez.
Oui, je tourne, mais j'arrive toujours à me débrouiller pour tomber sur des scénarios qui racontent quand même autre chose que ça. Mais je pense que la vision d'un metteur en scène est importante. C'est pas seulement ce qu'il raconte dans l'histoire, mais son goût de l'image aussi.
C'est pour ça que ça m'étonne cette tendance qu'a le théâtre aujourd'hui à adapter pour la scène des films de cinéma. Et c'était le cas de Scène de la vie conjugale, dont nous parlions tout à l'heure, adapté d'un film de Bergman, qui était lui-même une adaptation d'une série télé de Bergman. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça bizarre quand on vous a proposé Scène de la vie conjugale ? De se dire, mais après tout, un film, c'est aussi le génie d'un cinéaste. Ce ne sont pas seulement les dialogues du film.
Oui, c'est vrai. Mais d'abord, le metteur en scène est un grand fan de Bergman. Il avait
C'était
déjà...
Safi Nebbou, qui est lui-même un réalisateur de cinéma.
Qui avait déjà réalisé un film sur Bergman, sur l'histoire de sa naissance. Et là, on n'était pas du tout dans des décors ostentatoires, la table, l'assiette, enfin l'histoire du couple, bourgeois. On est sorti de ça, il n'y avait rien comme décor.
Oui, je me souviens.
Que les personnages, que leurs ressentis, leurs émotions. Et donc, en tant qu'acteur, on était obligé d'aller puiser quelque chose d'assez personnel en soi, puisqu'on ne pouvait s'appuyer sur rien. Donc, on n'était pas dans du naturalisme, on était dans...
Non. Beaucoup moins que le film lui-même.
Exactement, le film était quand même... Moi, je
comme
l'ai
un
vu,
reportage sur un couple.
Déprimant, c'est déprimant. On n'a pas envie de vivre l'amour quand on voit ça.
D'ailleurs, Bergman disait qu'il voulait que les couples se reconnaissent dans Scène de la vie conjugale.
Mais à cette époque-là, quand le film est sorti à la télévision, il y a eu un taux de divorce énorme. Partout dans le monde. En Italie, ça a eu un succès énorme. Il y a eu un taux de divorce phénoménal.
Ça vous a changé, vous ? Vous avez l'impression d'avoir joué cette pièce ?
Moi, j'ai accepté... J'ai eu la sensation de jouer deux personnages. J'ai eu du mal à jouer la femme soumise. Peut-être que ça me faisait penser à des choses personnelles, les combats de ma mère. Des fois, ça me ramenait à sa tristesse. Et c'était difficile. Et l'autre, que je devais jouer après, qui s'éveille, qui s'ouvre, qui découvre sa sexualité, j'avais pas l'impression de la jouer.
C'est drôle, hein ?
Ouais.
On est devant le musée Rodin. On va rentrer dans le musée Rodin avec Laetitia Casta. Nous y étions déjà la semaine dernière avec Armen Petrosian. Décidément, le musée Rodin plaît à tout le monde. Hein. C'est un des endroits de Paris que tous les Parisiens adorent.
Derrière le musée Rodin se cache un très joli jardin et c'est justement là-bas qu'on rejoint Frédéric Taddeï et Laetitia Casta qui a invité une de ses grandes amies.
Nous sommes à présent dans le jardin du musée Rodin, un très beau jardin où Laetitia Casta a donné rendez-vous à son amie Prune Nourry. Bonjour Prune.
Bonjour Frédéric.
Pourquoi vouliez-vous que Prune Nourry soit dans le jardin du musée Rodin, Laetitia Casta ?
Parce que je trouve que ça lui correspond. Et Prune est une grande artiste que j'admire énormément par son travail, et j'avais envie avec elle de parler du mouvement, le mouvement du corps, le mouvement aussi du rêve. Quand on a un rêve, est-ce qu'on arrive à le réaliser tout de suite, et comment, ce que tu as imaginé, est-ce que ça va se mettre en place quand tu vas créer tes sculptures ?
Moi, je crois vachement dans l'idée de hasard mélangé à l'intuition, c'est ce que j'appelle la sérendipité, enfin ce qui s'appelle la sérendipité, mais j'en ai fait du coup le titre d'un livre et d'un film, et c'est vraiment un mot qui compte beaucoup pour moi. Il y a cette idée justement de mouvement continuel, mais il faut savoir attraper l'idée quand elle vient et en faire quelque chose.
Alors moi, je connais votre travail sur les enfants. J'en suis resté à votre travail sur les enfants. Vous avez beaucoup travaillé sur les enfants. Je me souviens des bébés en silicone, des Holy Daughters, des dîners sur la procréation, des choses comme ça. Vous êtes toujours dans les enfants aujourd'hui ou vous avez...
J'ai un peu grandi. Non, je suis toujours... En fait, les enfants, c'est le début. C'est là où tout est possible. C'est comme dans le changement. Quand on parle de changement, il faut parler d'éducation. Oui, exactement. In vitro. Et le dîner procréatif, c'était sur la procréation assistée. Les Holy Daughters et les Terracotta Daughters en Inde puis en Chine. C'était sur cette idée justement que les filles sont non désirées en Asie et puis dans le reste du monde, certaines techniques de procréation assistée sont utilisées à des fins de sélection. Donc c'était vraiment un travail sur la sélection de l'humain. Donc après, effectivement, la sélection commence au plus jeune âge, avant même l'accouchement.
Et alors c'est drôle d'avoir donné rendez-vous à Prune dans ce musée, puisque vous aviez envie de parler avec elle du mouvement. Et on se dit, des sculptures n'ont pas de mouvement, mais si, les sculptures de Rodin en ont.
Parce que Rodin disait que dans les sculptures, il essayait de, pas seulement de les sculpter, mais de les mettre en vie.
Mais ça, c'est intéressant. C'est vraiment pour un sculpteur, c'est le moment où on a l'impression que la sculpture nous regarde. C'est le moment où on sait qu'elle est terminée. Donc le moment où on a l'impression qu'on lui a passé une âme. Et dans la culture préhispanique, par exemple, ils pensaient que carrément la forme était déjà dans la matière. Donc le sculpteur n'était qu'un passeur.
Oui, il arrivait à faire surgir du matériau quelque chose qui y était depuis toujours.
Complètement. Le mouvement est déjà là et ça fait partie d'un tout.
Tu as la sensation, quand tu sculptes, de devoir être extrêmement humble face à la terre, face aux matériaux. Des fois, tu me racontes que tu as des énormes problèmes techniques. Tu rêves à quelque chose, mais tu n'arrives pas à atteindre ce rêve parce que techniquement, il y a des complications. Souviens-toi de ta dernière sculpture. Raconte un petit peu cette sculpture que tu voulais faire qui fait je ne sais pas combien
l'Amazone.
De mètres. Oui, raconte l'Amazone, s'il te plaît.
L'Amazone qui fait 4 mètres de haut. Alors celle-ci, j'ai choisi effectivement. D'ailleurs, tu m'avais amené voir le facteur cheval parce que je cherchais un béton qui puisse être sculpté directement à la main comme de l'argile. Et donc Laetitia m'a embarquée dans la Drôme.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le facteur cheval est le premier à avoir inventé le béton armé.
Ah oui ?
Oui, et les architectes se demandaient, mais comment il a fait tout ça ? Exactement, et c'est... Voilà. Et
donc, ça m'a inspiré à ce que tu m'as montré pour l'Amazone, effectivement, que j'ai sculpté en béton, mais directement avec les mains comme de l'argile.
Vous avez posé pour des sculpteurs, à part en Marianne, Laetitia Casta, vous avez beaucoup posé pour les photographes, est-ce que c'est la même chose ?
Non, c'est pas la même chose là. On est vraiment dans quelque chose de l'arrêt, justement. On n'est plus du tout dans le mouvement. On appartient totalement à l'autre. On n'est plus du tout en possession d'une pensée ou d'une parole. Il faut presque se vider quand on pose pour l'autre, je trouve, quand c'est face à un sculpteur. Mais moi, je suis trop... J'ai trop besoin de bouger tout le temps pour...
Et regardez, là, toutes les sculptures qui sont autour de nous, dans ce jardin du musée Rodin, elles bougent toutes. Elles sont toutes dans des mouvements incroyables.
C'est marrant, je trouve que dans les formes, il y a un côté un peu matisse dans les bras qui sont un peu plus longs que les...
Et...
Oui, c'est ça.
Ils sont plus longs que les jambes sur cette sculpture-là, effectivement.
Un peu de bourdelle aussi.
Vous avez toujours dit, Laetitia Casta, qu'au fond, d'être nue, pour vous, c'était totalement naturel. Et c'est vrai qu'on se dit, pour une femme, c'est plus naturel. Pour une actrice, j'entends, c'est plus naturel d'être nue que de tenir un revolver, après tout. Alors que les gens s'étonnent toujours que vous acceptiez d'être nue et pas que vous acceptiez de tenir un revolver.
Comme disait Niki de Saint-Phal, nous sommes dans la création, dans le début du monde, alors que les hommes ont eu besoin de créer des armes et des fusées. Et
des artefacts.
Voilà. C'est vrai que ce n'est pas la femme qui va créer un flingue. Donc le corps, pour moi, c'est quelque chose effectivement de naturel. On arrive au monde, que ce soit homme ou femme, on arrive nu. Et après, on en fait tout un péché. Est-ce que ça vient de la religion, de la Bible, de quoi ? Parce que Ève a croqué dans la pomme, parce qu'elle a été la plus curieuse finalement, la plus dangereuse. Mais je ne trouve pas que le corps soit quelque chose ni de sale, ni de contre... Enfin de voilà,
on commence à l'admettre aujourd'hui, il est quand même beaucoup moins mal vu.
Regardez avec ce qui se passe, par exemple le mouvement MeToo, d'un coup on redevient presque dans... On revient à la censure, il y a quelque chose qui devient... gênant, quand on dit que les hommes, avec leur désir, ils sont trop envahissants, comme si nous n'avions plus de désir non plus. Et je trouve ça terrible.
Vous êtes d'accord, Prune Nourry ?
Moi, je suis d'accord que le corps est quelque chose de magnifique et de tout temps. Je pense que l'art et les artistes ont effectivement aider à cette libération du corps. Après, sur la question de la femme, c'est vrai qu'on continue à voir plus souvent... disons que ça fait vendre plus de produits, effectivement, de voir des femmes nues que des hommes nus. Mais nous avons des désirs aussi.
Vous n'avez pas l'impression, dans le cinéma, j'ai l'impression que les hommes sont mis de plus en plus à contribution. On déshabille les hommes dans le cinéma. En tout cas, dans le cinéma français. Vous avez remarqué, Laetitia Gasta?
J'essaie de réfléchir. Mais quand il y a des scènes de nus, je me débrouille toujours pour que ce soit le mec qui soit à poil et pas moi.
Est-ce que le corps est toujours aussi important dans les arts plastiques aujourd'hui au 21e siècle?
Ça dépend des artistes. Il y a autant d'artistes qu'il y a de process, qu'il y a d'envie, qu'il y a de désir. Donc je ne ferai pas de généralité. Parce que
et justement... quand on va à la FIAC aujourd'hui, il y a moins de corps qu'il n'y en avait au Salon des Indépendants à la fin du 19e siècle, par exemple.
Complètement, mais après c'est aussi...
comme si on était passé à autre chose.
Et l'art conceptuel, effectivement, le fait d'enlever de l'idée de forme de l'art. Après, pour moi, l'important, c'est d'avoir un mélange à la fois d'esthétisme et de sens, de savoir-faire et de libération totale. Par exemple, des œuvres éphémères, des œuvres qui sont prêtes à être détruites, où on a à la base un corps, mais on sait que ce corps va se dissoudre. C'est quelque chose qui fait sens pour moi. Ça dépend vraiment de vers où l'artiste veut aller. Il ne faut pas regarder les modes. De toute manière, il ne faut pas regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il faut juste aller vers là où on a envie d'aller.
Je propose d'écouter une chanson de Dusty Springfield de la fin des années 60. C'était The Look of Love.
The look of love is in.
C'était The Look of Love, 1967, Dusty Springfield. On se retrouve dans un instant avec Laetitia Casta et Prune Nourry dans le jardin du musée Rodin. Elles se sont assises sur un banc, je vais aller les rejoindre.
La balade de Frédéric Taddeï et Laetitia Casta touche bientôt à sa fin, mais il reste encore quelques questions à poser à l'actrice.
Nous sommes assis sur un banc dans les jardins du musée Rodin avec Laetitia Casta et Prune Nourry. Pourquoi vous vouliez vous asseoir, Laetitia? J'ai l'impression que vous aviez...
Oui, parce que je n'arrive pas à marcher et lire en même temps.
C'est vrai qu'elle lit en même temps.
Et en fait, j'ai pris une petite citation de Bachelard pour toi. Imaginer, c'est hausser le réel d'un ton. Elle regarde le ciel. Prune, elle a quelque, enfin, peut-être que ça va te choquer ce que je vais te dire, mais tu me fais penser à Camille Claudel puisqu'on est dans les jardins avec les sculptures de Rodin et Camille Claudel avait quelque chose d'assez enfin violent face à son art, assez, assez puissant. On a l'impression qu'elle n'a pas séparé sa vie à ce qu'elle crée. Enfin, te connaissant, j'ai cette sensation-là.
Je pense que c'est quand on fait le choix d'être artiste, enfin, c'est même pas un choix, c'est en nous. Et puis, ça vient des tripes. Donc, tu te poses pas vraiment de questions sur quelle est la partie professionnelle ou personnelle. C'est un tout. C'est chaque molécule de ton corps va vers là où tu es censé aller. Après, c'est peut-être une vision un peu romantique de l'art. Mais...
Non, mais est-ce que tu peux être à la fois dans la construction et la destruction ? Est-ce que tu peux aussi détruire ce que tu construis ?
Ah oui, complètement. À partir du moment où on pousse notre premier cri, on sait qu'un jour, il y aura une fin. Et cette fin, peut-être, est destinée à être en fait une continuité. Donc la matière, c'est pareil, de prendre de la terre, de créer une œuvre, comme j'ai pu faire Holy River en Inde, qui était cette sculpture de 8 mètres de haut et que j'ai ensuite replongée dans le Gange. C'était de la terre qui venait du Gange, qui est le fleuve sacré. Et j'ai sculpté avec les artisans à la manière traditionnelle un hybride entre la vache sacrée et la petite fille. Et puis, on a fait une procession à travers les rues de Calcutta et on l'a replongée dans le fleuve d'où elle venait. Elle est redevenue boue, elle est redevenue terre, elle est redevenue eau. Pour moi, c'était juste le cycle naturel de la vie.
C'est comme le théâtre, au fond, il n'en reste rien après.
Oui, mais il y a chaque soir ce rendez-vous amoureux qu'on ne ressent pas au cinéma. Puisque de retrouver le public, et on ne sait jamais qui on va voir en face. Un jour, on m'a dit, mais ce n'est pas parce que tu as le cœur qui bat très fort quand tu vois quelqu'un que tu es amoureuse. La personne en face est peut-être dangereuse, et le public est dangereux, mais il est fort. Il y a cet échange comme ça, on ne sait pas où on va. Et c'est marrant, dans cette pièce des scènes de la vie conjugale, je démarrais de dos. Et le fait de démarrer de dos face au public me mettait dans une peur...
Et quand vous jouiez Ondine, vous étiez très jeune, Ondine, hein, c'est
très
votre première
jeune,
pièce
oui.
de théâtre, c'est une pièce de Giraudoux, il y a beaucoup, beaucoup de comédiens autour de vous, mais néanmoins, ça devait être assez impressionnant, non ?
Mais je démarrais au théâtre et j'avais tout à apprendre. Je me souviens, je notais sur les cahiers tout ce que pouvait me dire Jacques Weber.
J'essayais d'être metteur en scène.
Oui, j'essayais d'être une bonne élève comme ça. Et j'attendais chaque soir ses notes. J'attendais quelque chose. À la lecture d'Ondine, ça a été un choc. J'ai découvert quelqu'un qui pouvait être mon ami. Je me suis sentie moins seule, une sorte d'électron libre comme ça. Très bizarre, je me souviens au moment où Ondine est pris dans les filets à la fin, ça me faisait penser à des tas de choses auxquelles... Mais sur la vie, par exemple, ça me faisait penser à la Shoah, ça me faisait penser à des tas de choses très puissantes chaque soir. Pour aller chercher l'émotion, je pensais à des choses très violentes.
C'est toujours drôle, en fait, hein, comment on interprète, parce que souvent on divise les artistes entre ceux qui créent et ceux qui interprètent. Mais au fond, dans l'interprétation, il y a toujours une création originale.
Bien sûr, chaque acteur qui va lire un scénario le lira différemment. Moi, quand je lis un scénario, je vois des images. En images, ça se passe. Je me projette comme ça. Et avant de démarrer un tournage ou une pièce de théâtre, là, je rentre en méditation et je m'imagine complètement en face de mon personnage et je la visualise comme ça et je lui demande la permission de pouvoir rentrer en elle. Et il y a comme... Je vois ces deux images de moi et du personnage se fondre. Et du coup, tout m'est permis, puisqu'elle m'a donné l'autorisation. Mais des fois, elle me dit non, donc je suis obligée de recommencer tout mon parcours.
Je vais vous poser la question. Je vais vous dire, est-ce qu'elles vous ont déjà dit non ?
Des fois, ça arrive quand on n'est pas dans quelque chose de juste, qui est l'ordre du cœur. Il y a des interférences comme ça. Où... Au théâtre, moi, je passe par beaucoup de rituels. Je me défais de plein de choses, de la vie de tous les jours. C'est comme une page blanche, comme ça, vous arrivez et hop, on recommence. Et on se dédie à son personnage et à son partenaire et puis au public. Et ce que vous renvoie le partenaire sur scène, se dire toujours que ce n'est pas le partenaire qui vous envoie ça, personnellement, ne pas le prendre mal, mais c'est toujours son personnage. Donc s'il est en colère ou s'il ne m'écoute pas, ou, c'est toujours le personnage. Et du coup, chaque soir, on invente un truc.
C'est impressionnante, hein ?
Elle est impressionnante. Je l'ai vu jouer d'ailleurs, scène de la vie conjugale, c'était impressionnant, c'était intense. Je ne sais pas comment tu t'en sortais indemne chaque soir.
Je demandais la permission à mon personnage. Comme ça, c'était pas complètement moi. Peut-être que c'est une manière de ne pas me faire bouffer non plus. Peut-être.
Mais ce n'est pas non plus totalement vous, mais c'est quand même un peu vous quand même, dans l'incroyable histoire du facteur cheval qui sortira donc au cinéma le 16 janvier.
Oui.
Et dans L'homme fidèle aussi, qui est déjà à l'affiche, le film de Louis Garrel, qui joue avec vous. C'est pas tout à fait vous, mais c'est quand même un peu vous.
Au moment où le film s'est terminé, bien sûr, c'était un tournage comme les autres, mais pas complètement. C'est un projet particulier.
Vous parlez de L'homme fidèle.
De L'homme fidèle, parce que j'étais regardée par quelqu'un qui me connaît, mais pas dans le travail.
C'est votre mari.
Je crois. Vous croyez ?
Je ne sais pas, je ne connais pas.
En tout cas, la personne que j'ai vue sur le tournage, ce n'était pas mon mari, c'était un metteur en scène. Parfois, volontaire, tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, voilà, il n'était pas plus tendre avec moi qu'avec les autres. Bien peut-être plus dur avec moi.
Non, mais je ne sous-entendais pas que vous aviez été pistonnée.
Je n'ai pas du tout été pistonnée, du tout, du tout. Et à un moment, donc, on a traversé ce tournage, comme les autres. Et quand ça s'est terminé, il y a quelque chose de différent qui s'est produit. J'ai eu du mal à lâcher cette chose-là. Par contre, là, j'étais un peu radine. Je ne voulais pas le donner. C'est comme si c'était un bout de moi qui partait avec. C'est très bizarre.
Merci Laetitia Casta de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui dans Paris. Merci Prune Nourry. J'en profite également pour remercier la brasserie Le Bourbon, Léa Salamé et le musée Rodin dans lequel nous nous trouvons. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 11h, pour une autre balade.